Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Et nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté et dans la diligence du rideau cramoisi de Barbet d'Orvilly. Ah, tonnerre de Dieu! Il parle de vision, ceux qui y croient. Mais la vision la plus surnaturelle ne m'aurait pas donné la surprise, l'espèce de coup au cœur que je ressentis et qui se répéta en palpitations insensées quand je vis venir à moi, de cette porte ouverte, Alberte. Effrayé au bruit que cette porte venait de faire en s'ouvrant, et qui allait recommencer encore si elle la refermait. Rappelez-vous toujours que je n'avais pas 18 ans. Elle vit peut-être ma terreur à la sienne. Elle réprima par un geste énergique le cri de surprise qui pouvait m'échapper, qui me serait certainement échappé sans ce geste. Et elle referma la porte, non plus lentement, puisque cette lenteur l'avait fait crier, mais rapidement, pour éviter ce cri des gonds, qu'elle n'évita pas, et qui recommença plus net, plus franc, d'une seule venue et suraiguë. Et à la porte fermée, l'oreille contre elle, elle écouta si un autre bruit qui aurait été plus inquiétant et plus terrible ne répondait pas à celui-là. Je crus la voir chanceler, je m'élançai et l'eus bientôt dans les bras. « Mais elle va bien, votre Alberte, » dis-je au capitaine. « Vous croyez peut-être, » reprit-il, comme s'il n'avait pas entendu ma moqueuse observation, qu'elle y tomba dans mes bras d'effroi, de passion, de tête perdue, comme une fille poursuivie ou qu'on peut poursuivre, qui ne sait plus ce qu'elle fait quand elle fait la dernière des folies, quand elle s'abandonne à ce démon que les femmes ont toutes, dit-on, quelque part, et qui serait le maître toujours s'il n'y en avait pas deux autres aussi en elle. La lâcheté et la honte, pour contrarier celui-là. Eh bien non, ce n'était pas cela. Si vous le croyez, vous vous tromperiez. Elle n'avait rien de ces peurs vulgaires et osées. Ce fut bien plus elle qui me prit dans ses bras que je ne la pris dans les miens. Son premier mouvement avait été de se jeter le front contre ma poitrine, mais elle le releva et me regarda, les yeux tout grands, des yeux immenses, comme pour voir si c'était bien moi qu'elle tenait ainsi dans ses bras. Elle était horriblement pâle et comme je ne l'avais jamais vue pâle. Mais ses traits de princesse n'avaient pas bougé. Ils avaient toujours l'immobilité et la fermeté d'une médaille. Seulement, sur sa bouche, aux lèvres légèrement bombées, errait je ne sais quel égarement qui n'était pas celui de la passion heureuse ou qui va l'être tout à l'heure. Et cet égarement avait quelque chose de si sombre dans un pareil moment que pour ne pas le voir, je plantai sur ses belles lèvres rouges et érectiles le robuste et foudroyant baiser du désir triomphant et roi. La bouche s'entr'ouvrit. Mais les yeux noirs, à la noirceur profonde et dont les longues paupières touchaient presque alors mes paupières, ne se fermèrent point. Ne palpitèrent même pas. Mais tout au fond, comme sur sa bouche, je vis passer de la démence. agrafée par ce baiser de feu et comme enlevée par les lèvres qui pénétraient les siennes, aspirée par l'haleine qui la respirait, je la portais, toute collée à moi sur ce canapé de maroquin bleu. Mon canapé sur lequel depuis un mois je me roulais en pensant à elle, et dont le maroquin se mit voluptueusement à craquer sur son dos nu, car elle était à moitié nue. Elle sortait de son lit, et pour venir, elle avait, le croyez-vous, été obligée de traverser la chambre où son père et sa mère dormaient. Elle l'avait traversée à tâtons, les mains en avant, pour ne pas se choquer à quelque meuble qui aurait retenti de son choc et qui eût pu les réveiller. « Ah, fis-je, on n'est pas plus brave à la tranchée, elle était digne d'être la maîtresse d'un soldat. » Et elle le fut, dès cette première nuit-là, reprit le vicomte. Elle le fut aussi violente que moi, et je vous jure que je l'étais. Mais c'est égal. Voici la revanche. Elle, ni moi, ne pûmes oublier, dans les plus vifs de nos transports, l'épouvantable situation qu'elle nous faisait à tous les deux. Au sein de ce bonheur qu'elle venait chercher et m'offrir, elle était alors comme stupéfiée de l'acte qu'elle accomplissait, d'une volonté pourtant si ferme, avec un acharnement si obstiné, je ne m'en étonnais pas. Je l'étais bien, moi, stupéfié. J'avais bien, sans le lui dire et sans le lui montrer, la plus effroyable anxiété dans le cœur, pendant qu'elle me pressait à m'étouffer sur le sien. J'écoutais à travers ses soupirs, à travers ses baisers, à travers le terrifiant silence qui pesait sur cette maison endormie et confiante, une chose horrible. C'est si sa mère ne s'éveillait pas, si son père ne se levait pas. Et jusque par-dessus son épaule, je regardais derrière elle si cette porte, dont elle n'avait pas ôté la clé par peur du bruit qu'elle pouvait faire, n'allait pas s'ouvrir de nouveau et me montrer, pâle et indigné, ces deux têtes de méduse, ces deux vieillards que nous trompions avec une lâcheté si hardie, surgir tout à coup dans la nuit, image de l'hospitalité violée et de la justice. Jusqu'à ces voluptueux craquements du maroquin bleu qui m'avait sonné la diane de l'amour me faisaient tressaillir d'épouvante. Mon cœur battait contre le sien qui semblait me répercuter ses battements. C'était enivrant et dégrisant tout à la fois, car c'était terrible. Je me fis à tout cela plus tard. À force de renouveler impunément cette imprudence sans nom, je devins tranquille dans cette imprudence. À force de vivre dans ce danger d'être surpris, je me blasais, je n'y pensais plus, je ne pensais plus qu'à être heureux. Dès cette première nuit formidable qui aurait dû l'épouvanter des autres, elle avait décidé qu'elle viendrait chez moi de deux nuits en deux nuits, puisque je ne pouvais aller chez elle. Sa chambre de jeune fille n'ayant d'autre issue que dans l'appartement de ses parents. Et elle y vint régulièrement toutes les deux nuits. Mais jamais elle ne perdit la sensation, la stupeur de la première fois. Le temps ne produisit pas sur elle l'effet qu'il produisit sur moi. Elle ne se bronza pas au danger affronté chaque nuit, toujours elle restait. Et jusque sur mon cœur, silencieuse, me parlant à peine avec la voix, car d'ailleurs vous vous doutez bien qu'elle était éloquente, et lorsque plus tard le calme me prit, moi, à force de dangers affrontés et de réussites, et que je lui parlais, comme on parle à sa maîtresse, de ce qu'il y avait déjà de passé entre nous, de cette froideur inexplicable et démentie, puisque je la tenais dans mes bras, et qui avait succédé à ses premières audaces, quand je lui adressais enfin tous ces « pourquoi » insatiables de l'amour, qui ne peut être au fond qu'une curiosité, elle ne me répondit jamais que par de longues étreintes. Sa bouche triste demeurait muette de tout, excepté des baisers. Il y a des femmes qui vous disent « je me perds pour vous ». Il y en a d'autres qui vous disent « tu vas bien me mépriser ». Et ce sont là des manières différentes d'exprimer la fatalité de l'amour. Mais elle, non. Elle ne disait mot. Chose étrange. plus étrange personne. Elle me produisait l'effet d'un épais et dur couvercle de marbre qui brûlait, chauffé par en dessous. Je croyais qu'il arriverait un moment où le marbre se fendrait enfin sous la chaleur brûlante, mais le marbre ne perdit jamais sa rigide densité. Les nuits qu'elle venait, elle n'avait ni plus d'abandon, ni plus de parole. Et je me permettrai ce mot ecclésiastique. Elle fut toujours aussi difficile à confesser que la première nuit qu'elle était venue. Je n'en tirai pas davantage. Tout au plus, un monosyllabe arraché d'obsession à ses belles lèvres dont je raffolais d'autant plus que je les avais vues plus froides et plus indifférentes pendant la journée. Et encore, un monosyllabe qui ne faisait pas grande lumière sur la nature de cette fille qui me paraissait plus sphinx à elle seule que tous les sphinx dont l'image se multipliait autour de moi dans cet appartement empire. « Mais capitaine, interrompis-je encore, il y eut pourtant une fin à tout cela. Vous êtes un homme fort et tous les sphinx sont des animaux fabuleux. Il n'y en a point dans la vie et vous finîtes bien par trouver, que diable, ce qu'elle avait dans son giron, cette commère-là. » Une fin, oui, il y eut une fin, fit le vicomte de Brassard en baissant brusquement la vitre du coupé, comme si la respiration avait manqué à sa monumentale poitrine et qu'il eût besoin d'air pour achever ce qu'il avait à raconter. Mais le giron, comme vous dites, de cette singulière fille, n'en fut pas plus ouvert pour cela. Notre amour, notre relation, notre intrigue, appelez cela comme vous voudrez, nous donna, ou plutôt me donna à moi, des sensations que je ne crois pas avoir éprouvées jamais depuis avec les femmes plus aimées que cette Alberte, qui ne m'aimait peut-être pas, que je n'aimais peut-être pas. Je n'ai jamais bien compris ce que j'avais pour elle et ce qu'elle avait pour moi, et cela dura plus de 6 mois. Pendant ces 6 mois, tout ce que je compris, ce fut un genre de bonheur dont on n'a pas l'idée dans la jeunesse. Je compris le bonheur de ceux qui se cachent. Je compris la jouissance du mystère dans la complicité qui, même sans l'espérance de réussir, ferait encore des conspirateurs incorrigibles. Alberte, à la table de ses parents comme partout, était toujours la madame infante qui m'avait tant frappé le premier jour que je l'avais vue. Son front néronien, sous ses cheveux bleus à force d'être noirs, qui bouclaient durement et qui touchaient ses sourcils, ne laissait rien passer de la nuit coupable qui n'y étendait aucune rougeur. Et moi qui essayais d'être aussi impénétrable qu'elle, mais qui, j'en suis sûr, aurait dû me trahir 10 fois si j'avais eu affaire à des observateurs, je me rassasiais orgueilleusement et presque sensuellement dans le plus profond de mon être de l'idée que toute cette superbe indifférence était bien à moi et qu'elle avait pour moi toutes les bassesses de la passion, si la passion pouvait jamais être basse. Nul que nous, sur la terre, ne savait cela. Et c'était délicieux, cette pensée. Personne, pas même mon ami Louis de Mingue, avec lequel j'étais discret depuis que j'étais heureux. Il avait tout deviné, sans doute, puisqu'il était aussi discret que moi. Il ne m'interrogeait pas. J'avais repris avec lui sans effort mes habitudes d'intimité, les promenades sur le cours, en grande ou petite tenue, l'impériale, l'escrime et le punch, pardieu. Quand on sait que le bonheur viendra sous la forme d'une belle jeune fille qui a comme une rage de dents dans le cœur, vous visitez régulièrement, d'une nuit à l'autre, à la même heure, cela simplifie joliment les jours.
J'entendis le coucou chanter. disait dans son langage, il est oh ma nanette. Il me disait dans son langage, t'as bien aimé, vont l'enterrer. T'as bien aimé, vont l'enterrer. Ah, que dis-tu, méchante bête? Il est oh ma nanette. Ah, que dis-tu, méchante bête? J'étais près d'elle hier au soir. J'étais près d'elle hier au soir. Mais quand je fus dedans la lande, il est oh ma nanette. Mais quand je fus dedans la lande, j'entendis les cloches sonner. J'entendis les cloches sonner. Mais quand je fus dedans l'église, il est, oh ma nanette. Mais quand je fus dedans l'église, j'entendis les prêtres chanter. J'entendis les prêtres chanter. Donner du pied dedans la chasse, il est, oh ma nanette. Donner du pied dedans la chasse. Réveillez-vous si vous dormez. Réveillez-vous si vous dormez. Non, je ne dors ni ne sommeille. Il est, oh ma nanette. Non, je ne dors ni ne sommeille. Je vous attends dedans l'enfer. Je vous attends dedans l'enfer. Vois ma bouche est pleine de terre, et la tienne est pleine d'amour. La tienne est pleine d'amour. Auprès de moi reste une place. Il est, oh ma nanette. Auprès de moi reste une place. Et c'est pour toi qu'on l'a gardée. Et c'est pour toi qu'on l'a gardé. Quand je menais mes chevaux braves, il est, oh ma nanette. Quand je menais mes chevaux, j'entendis le coucou chanter.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au rideau cramoisi de Barbet d'Aurevilly. Et le dénouement, fis-je, me rappelant les paroles d'avant son histoire. Le dénouement qui devait vous faire connaître la sensation de la peur, capitaine. Écoutez donc. C'était une nuit. Avec la vie que nous menions, ce ne pouvait être qu'une nuit. Une longue nuit d'hiver. Je ne dirais pas une de nos plus tranquilles. Elles étaient toutes tranquilles, nos nuits. Elles l'étaient devenues à force d'être heureuses. Nous dormions sur ce canon chargé. Nous n'avions pas la moindre inquiétude en faisant l'amour sur cette lame de sabre posée en travers d'un abîme comme le pont de l'enfer des Turcs. Albert était venue plus tôt qu'à l'ordinaire pour être plus longtemps. Quand elle venait ainsi, ma première caresse, mon premier mouvement d'amour était pour ses pieds. Ses pieds qui n'avaient plus alors ses brodequins verts ou hortensias, ces deux coquetteries et mes deux délices, et qui, nue pour ne pas faire de bruit, m'arrivait transi de froid des briques sur lesquelles elle avait marché le long du corridor qui menait de la chambre de ses parents à ma chambre, placée à l'autre bout de la maison. Je les réchauffais, ses pieds, glacés pour moi, qui peut-être ramassait pour moi en sortant d'un lit chaud quelque horrible maladie de poitrine. Je savais le moyen de les tiédir et d'y mettre du rose ou du vermillon à ses pieds pâles et froids. Mais cette nuit-là, mon moyen manqua. Ma bouche fut impuissante à attirer sur ce coup de pied cambré et charmant la plaque de sang que j'aimais souvent à y mettre, comme une rosette ponceau. Albert, cette nuit-là, était plus silencieusement amoureuse que jamais. Ses étreintes avaient cette longueur et cette force qui étaient pour moi un langage, et un langage si expressif que si je lui parlais toujours, moi, si je lui disais toutes mes démences et toutes mes ivresses, je ne lui demandais plus de me répondre et de me parler. À ses étreintes, je l'entendais. Tout à coup, je ne l'entendis plus. Ses bras cessèrent de me presser sur son cœur. Et je crus à une de ses pâmoisons, comme elle en avait souvent, quoique ordinairement elle gardât en ses pâmoisons la force crispée de l'étreinte. Nous ne sommes pas des bégueules entre nous, nous sommes deux hommes, et nous pouvons nous parler comme deux hommes. J'avais fait l'expérience des spasmes voluptueux d'Albert et, quand il l'apprenait, il n'interrompait pas mes caresses. Je restais comme j'étais sur son cœur, attendant qu'elle revînt à la vie, consciente, dans l'orgueilleuse certitude qu'elle reprendrait ses sens sous les miens et que la foudre qui l'avait frappée la ressusciterait en la refrappant. Mais mon expérience fut trompée. Je la regardais comme elle était, liée à moi sur le canapé bleu, épiant le moment où ses yeux, disparus sous de larges paupières, me remontreraient leurs beaux orbes de velours noir et de feu, où ses dents, qui se serraient et grinçaient à briser leur émail au moindre baiser appliqué brusquement sur son cou et traîné longuement sur ses épaules, laisseraient, en s'entr'ouvrant, passer son souffle. Mais ni les yeux ne revinrent, ni les dents ne se desserrèrent. Le froid des pieds d'Albert était monté jusque dans ses lèvres et sous les miennes. Quand je sentis cet horrible froid, je me dressai à mi-corps pour mieux la regarder. Je m'arrachai en sursaut de ses bras, dont l'un tomba sur elle et l'autre pendit à terre du canapé sur lequel elle était couchée. Effaré, mais lucide encore, je lui mis la main sur le cœur. Il n'y avait rien. Rien au pouls, rien aux tempes, rien aux artères, rien nulle part que la mort qui était partout et déjà avec son épouvantable rigidité. J'étais sûr de la mort et je ne voulais pas y croire. La tête humaine a de ses volontés stupides contre la clarté même de l'évidence et du destin. Albert était morte. De quoi ? Je ne savais pas. Je n'étais pas médecin, mais elle était morte. Et quoi que je visse avec la clarté du jour de midi que ce que je pourrais faire était inutile, je fis pourtant tout ce qui me semblait si désespérément inutile. Dans mon néant absolu de tout, de connaissances, d'instruments, de ressources, je lui vidai sur le front tous les flacons de ma toilette. Je lui frappai résolument dans les mains, au risque d'éveiller le bruit dans cette maison où le moindre bruit nous faisait trembler. J'avais ouï dire à un de mes oncles, chef d'escadron au 4e dragon, qu'il avait un jour sauvé un de ses amis d'une apoplexie en le saignant vite avec une de ces flammes dont on se sert pour saigner les chevaux. J'avais des armes plein ma chambre, je pris un poignard et je labourai les bras d'Albert à la saignée. Je massacrai ce bras splendide, tout le sang ne coula même pas. Quelques gouttes s'y coagulèrent. Il était figé. Ni baiser, ni succion, ni morsure ne purent galvaniser ce cadavre raidi, devenu cadavre sous mes lèvres. Ne sachant plus ce que je faisais, je finis par m'étendre dessus. Le moyen qu'emploient, disent les vieilles histoires, les thaumaturges ressusciteurs, n'espérant pas y réchauffer la vie, mais agissant comme si je l'espérais. Et ce fut sur ce corps glacé qu'une idée qui ne s'était pas dégagée du chaos dans lequel la bouleversante mort subite d'Albert m'avait jeté m'apparut nettement, et que j'eus peur. Oh, mais une peur immense. Albert était morte chez moi, et sa mort disait tout. Qu'allais-je devenir? Que fallait-il faire? À cette pensée, je sentis la main physique de cette peur hideuse dans mes cheveux qui devinrent des aiguilles. Ma colonne vertébrale se fondit en une fange glacée et je voulus lutter, mais en vain, contre cette déshonorante sensation. Je me dis qu'il fallait avoir du sang-froid, que j'étais un homme après tout, que j'étais militaire. Je me mis la tête dans les mains et quand le cerveau me tournait dans le crâne, je m'efforçais de raisonner la situation horrible dans laquelle j'étais pris et d'arrêter pour les fixer et les examiner toutes les idées qui me fouettaient le cerveau comme une toupie cruelle et qui toutes allaient à chaque tour se heurter à ce cadavre qui était chez moi, à ce corps inanimé d'Albert qui ne pouvait plus regagner sa chambre et que sa mère devait retrouver le lendemain matin dans la chambre de l'officier morte et déshonorée. L'idée de cette mère, à laquelle j'avais peut-être tué sa fille en la déshonorant, me pesait plus sur le cœur que le cadavre même d'Albert. On ne pouvait pas cacher la mort. Mais le déshonneur, prouvé par le cadavre chez moi, n'y avait-il pas moyen de le cacher? Le vicomte de Brassard s'arrêta, sa forte voix un peu brisée. Je ne songeais plus à plaisanter. Le silence ne fut pas long entre nous. Et après, lui dis-je. Eh bien voilà, répondit-il, il n'y a pas d'après. Il se tut encore, ce dandy, qui m'avait raconté sans le moindre dandisme une histoire d'une si triste réalité. Je rêvais sous l'impression de cette histoire, et je comprenais que ce brillant vicomte de Brassard, la fleur non des pois, mais des plus fiers pavots rouges du dandisme, le buveur grandiose de claret à la manière anglaise, fut comme un autre, un homme plus profond qu'il ne paraissait. Le mot me revenait qu'il m'avait dit en commençant sur la tache noire qui, pendant toute sa vie, avait meurtri ses plaisirs de mauvais sujet. Quand tout à coup, pour m'étonner davantage encore, il me saisit le bras brusquement. « Tenez !» me dit-il. « Voyez au rideau !» L'ombre svelte d'une taille de femme venait d'y passer en s'y dessinant. L'ombre d'Albert, fit le capitaine. Le hasard est par trop moqueur ce soir, ajouta-t-il avec amertume. Le rideau avait déjà repris son carré vide, rouge et lumineux. Mais le charron qui, pendant que le vicomte parlait, avait travaillé à son écrou, venait de terminer sa besogne. Les chevaux de relais étaient prêts et piaffaient, se sabotant de feu. Le conducteur de la voiture, bonnet d'astrakan aux oreilles, registre aux dents, prit ses longes et s'enleva, et une fois hissé sur la banquette impériale, cria de sa voix claire le mot du commandement dans la nuit « Roulez !» Et nous roulâmes. Et nous eûmes bientôt dépassé la mystérieuse fenêtre que je vois toujours dans mes rêves, avec son rideau cramoisi. Voilà, nous avons terminé cette lecture de la nouvelle de Barbet d'Aurevilly, extrait de son recueil « Les Diaboliques » et dont le titre est « Le rideau cramoisi ». Nous nous retrouverons demain pour une autre lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.